3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Edward Regan Murphy naît à New York le 3 avril 1961 dans l'arrondissement de Brooklyn. Sa mère, téléphoniste, et son père, policier, divorceront lorsque le jeune Murphy ne sera âgé que de 3 ans, forçant le jeune homme à rester avec sa mère et son frère aîné, Charles. 5 années plus tard, son père sera tragiquement assassiné par sa compagne qui le poignardera lors d'une querelle. Ce sera durant cette période que la mère célibataire de Murphy tombera sérieusement malade, forçant ainsi ce dernier et son frère à vivre quelque temps dans une famille d'accueil. Ce sera d'ailleurs durant ce séjour en famille d'accueil qu'il développera son sens de l'humour particulier. De retour chez lui, Murphy verra sa famille s'agrandir lorsque sa mère se remariera avec un ancien boxeur travaillant en tant que contremaître dans une usine de crème glacée et ayant déjà un fils prénommé Vernon. C'est alors que tout ce bon monde déménagera à Roosevelt, à Long Island, où Murphy fréquentera l'école du coin, où son goût pour l'humour le rendra célèbre grâce à ses imitations et ses blagues qui faisaient rire les élèves et les enseignants. Ce sera donc à l'âge de 15 ans que le jeune Murphy écoutera l'album comique de Richard Pryor, That Nigger's Crazy, album qui l'inspirera alors à devenir comédien. Murphy développera donc son style et se servira de ses autres influences, soit Peter Sellers, Bill Cosby, Red Fox, Robin Williams, Muhammad Ali, Bruce Lee et Charlie Chaplin. Ce sera le 9 juillet 1976 que Murphy débutera sa carrière en se produisant dans un spectacle de talent au Roosevelt Youth Center, se faisant passer pour le chanteur Al Green alors que la chanson de Green's « Let's Stay Together » était jouée. Cela l'a amené à travailler dans d'autres clubs, puis à travailler tard le soir dans des endroits qui l'obligeaient à se déplacer en train. L'argent amassé lui permettra alors de s'inscrire à l'école technique supérieure du quartier Garden City de New York. En 1980, alors âgé de seulement 19 ans, Murphy passe une audition et deviendra le nouveau membre du programme télévisé Saturday Night Live. Ses apparitions seront remarquées, si bien qu'il fera partie de la distribution principale dès la saison suivante. Avant son arrivée, les audiences de la série de sketchs comiques avaient décliné, le budget de production devenant alors très limité. Durant les 3 années qui suivront, Eddie Murphy et son acolyte Joe Piscopo participeront à la plupart des sketchs et le programme regagnera alors rapidement son public, offrant ainsi à Murphy une notoriété nationale. Il prendra alors la décision de quitter l'émission pour se concentrer sur sa carrière de cinéma. Ce sera le réalisateur américain Walter Hill qui permettra à Murphy de faire ses premiers pas au cinéma, ce dernier formant un duo dynamique avec l'acteur Nick Nolte dans son nouveau film « 48 Hours » qui sortira en salle en 1982. Puis, l'année suivante, Murphy partagera l'affiche avec les comédiens Dan Aykroyd et Jamie Lee Curtis dans le film « Trading Places », réalisé par le metteur en scène John Landis et réapparaîtra au milieu de l'année 1984 aux côtés de l'acteur Dudley Moore dans la comédie « Best Defense ». Mais ce sera véritablement en décembre 1984 que Murphy deviendra une superstar avec son apparition dans la comédie policière « Beverly Hills Cop » qui amassera plus de 300 millions de dollars à travers le monde entier, un moment qui changera à jamais la vie du jeune acteur afro-américain. Et ce sera ici le sujet de ce programme double, alors que je vous parlerai des deux premiers longs-métrages de la franchise Beverly Hills Cop, le premier sortant en salle en décembre 1984, alors que la suite sera distribuée dans les salles obscures 3 ans plus tard et qui sera également un gigantesque blockbuster international. Donc, préparez-vous à quitter la ville de Détroit pour aller faire le carnage dans la ville des anges alors que je vous parle ici des deux premiers films de cette franchise qui vient tout juste de célébrer ses 40 ans d'existence.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
And now, on with the show.
Get more out of life. Go out to a movie.
Eddie Murphy va encore changer de fauteuil. Petit flic de Détroit, il arrivera jusqu'à Beverly Hills.
Vous désirez une chambre, monsieur?
Oui, mais c'est pas un peu cher pour moi.
Il est en vacances et rencontre de nouvelles têtes.
Pour un type qui se dit en vacances, vous avez tout l'air de faire le gay.
Faire le gay, moi? Non. Je suis un pique-niqueur, alors j'ai amené de quoi pique-niquer.
Et se fait des amis.
Il y a quelques temps déjà que je suis flic, mais j'ai jamais vu une tire aussi bien briquée, les mecs. Et c'est plus chic que mon appartement.
Et dans la foulée, il démasque un tueur.
Et comment vous savez que c'est un professionnel?
Un bon conseil, retourne à Détroit dans ton trou à rats, parce qu'il va t'arriver des bricoles.
T'es intelligent.
C'est pas vrai, mec.
Pas un geste, vous êtes tous en état d'arrestation.
Eddie Murphy est le flic de Beverly Hills.
Beverly Hills Cop, ou Le flic de Beverly Hills, est une comédie policière qui a été distribuée par les studios Paramount Pictures le 5 décembre 1984. Ce film américain d'une durée de 105 minutes a coûté seulement 13 millions de dollars à produire et a amassé plus de 316 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Martin Brest, lui qui avait fait les films Midnight Run, Scent of a Woman et Meet Joe Black. Au poste de producteur, on y retrouve les producteurs américains Don Simpson, lui qui avait travaillé sur les films Bad Boy, The Rock, Flashdance et Days of Thunders, ainsi que son partenaire, Jerry Bruckheimer, lui qui avait travaillé sur les films American Gigolo, Thief of Hearts et Gemini Man. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste canadien Daniel Petrie Jr. qui a travaillé le scénario du film, lui qui avait travaillé sur les scénarios des films de Big Easy, Toy Soldiers et Shoot to Kill. Dans la distribution, on y retrouve Eddie Murphy, George Reinhold, John Ashton, Lisa Halbaker, Steven Berkoff, Ronnie Cox, Bronson Pinchot, Jonathan Banks, James Russo, Stephen Elliott, Paul Reiser, Michael Champion et Gilbert Hill. Témoin du meurtre d'un ami d'enfance par des inconnus, un jeune détective de Détroit se rend à Los Angeles pour découvrir l'identité de l'assassin et ce, malgré le fait qu'il entre rapidement en conflit avec la police locale. Au milieu des années 1970, le président de la Paramount Pictures, Michael Eisner, et l'un de ses exécutifs, Don Simpson, eurent une idée de film sur un flic de l'ouest de Los Angeles transféré à Beverly Hills. Ce sera le scénariste Danilo Bach qui fut alors appelé pour écrire le scénario. Ce dernier, qui venait de terminer son travail sur le script de The Beast Within, présentera son concept à Simpson et aux autres exécutifs de la Paramount en 1981 sous le nom de Beverly Drive, dont le personnage principal était un policier de Pittsburgh nommé Eli Axel. Étant un pur film d'action, Bach se verra alors contraint d'apporter des modifications à son concept, mais après quelques tentatives, le projet sera abandonné. Après le succès de Flashdance en 1983, Simpson considérait le film de Beverly Hills comme son prochain grand projet à titre de producteur en compagnie de son tout nouveau partenaire d'affaires, Jerry Bruckheimer. Sera alors embauché en septembre de cette même année le scénariste Daniel Petrie Jr. qui retravaillera le document de Bach et son approche humoristique envers le projet surprendra tout le monde, le personnage principal s'appelant désormais Axel Eli et provenant maintenant de Détroit. Le rôle d'Axel fut proposé à l'acteur Mickey Rourke qui signera alors un contrat de 400 000 $ pour interpréter le personnage. Rourke fut choisi après que les producteurs Simpson et Bruckheimer aient vu sa photo dans un magazine. Entre-temps, le duo de producteurs cherchait également leur réalisateur. Simpson et Bruckheimer avaient à cœur le metteur en scène de 32 ans, Martin Brest, qui les avait impressionnés avec son premier long-métrage, Going in Style. Mais Brest venait d'être viré du plateau de tournage du film War Games et ce dernier était alors hésitant à se lancer dans un nouveau projet. Martin Scorsese se verra donc proposer de réaliser le long-métrage, mais ce dernier refusera, estimant que le concept se rapprochait beaucoup trop de celui de Coogan's Bluff. Alors que David Cronenberg se verra également proposer le poste de réalisateur, qu'il déclinera également, Simpson et Bruckheimer continueront de harceler Brest au point que celui-ci n'aura d'autre choix que d'accepter le poste. Cependant, lorsque les révisions du scénario et autres préparatifs de production prirent plus de temps que prévu, Mickey Rourke quittera le projet pour aller jouer dans The Pope of Greenwich Village. Sans le consentement des producteurs, les hauts dirigeants de la Paramount donneront une copie du scénario de Petrie à l'acteur Sylvester Stallone, acceptant de remplacer Rourke en moins d'une journée. Stallone ne se montra pas très enthousiaste cependant à l'aspect comique et réécrira le scénario au complet, transformant le projet en un véritable film d'action, le protagoniste devenant Axel Cobretti. Ni les producteurs, ni le studio, ni Brest ne furent satisfaits des réécritures de Stallone et donc, deux semaines seulement avant le début du tournage, Stallone rencontrera le réalisateur, le scénariste Daniel Petrie et les producteurs et, lorsque la version du script corrigée de Petrie sera finalement retenue par tous, l'acteur quittera le projet. Plus tard, Stallone reprendra le scénario qu'il avait écrit pour Beverly Hills Cop et le transformera pour son film Cobra, qui sortira en salle en 1986. Après 8 années de travail, plus de 6 scénarios différents et pas moins de 2 millions de $ investis dans le projet, l'exécutif de la Paramount était sur le point de mettre un terme à celui-ci. Cependant, moins de 48 heures plus tard, Don Simpson et Jerry Bruckheimer convaincront le jeune acteur Eddie Murphy de remplacer Stallone en lui octroyant un salaire de plus de 4 millions de $. Avec l'arrivée de Murphy, Daniel Petri entreprendra presque aussitôt d'autres réécritures de son scénario, notamment en changeant le nom du personnage principal en Axel Foley. Avec l'assistance de Murphy, Petri continuera de reviser son script jusqu'au tout début du tournage. Cela rallongera la pré-production de plus d'un mois, permettant aux réalisateurs et aux producteurs de terminer le choix de leur distribution et de leur équipe technique. Ce sera d'ailleurs durant cette période que Simpson et Bruckheimer seront amenés sur une véritable scène de crime de meurtre à Détroit, dans le Michigan, endroit où ils feront alors la connaissance de l'inspecteur des homicides, Gilbert R. Hill. Les deux hommes décideront alors de lui donner le rôle du patron d'Axel Foley, l'inspecteur Todd. Hill fournira également du matériel de recherche à Murphy, qui a même copié l'habitude de Hill de glisser son arme dans le dos de son pantalon. Du côté de Brest, celui-ci devait, avec le changement de style apporté par l'arrivée de Murphy, demander un changement des emplacements de tournage ainsi que des costumes, ces derniers étant modifiés avec l'acceptation de Murphy, surtout pour l'habillement de son personnage. Brest devra se battre avec les producteurs afin d'obtenir les services de l'acteur Bronson Pinchot pour interpréter le personnage de Serge, le vendeur dans la galerie d'art. La raison derrière le refus des producteurs face à Pinchot était due au fait que l'acteur n'était pas un gros nom. Brest remportera son combat et offrira lui-même en personne le rôle à Pinchot, qui acceptera volontiers le poste. Pour incarner les rôles de Rosewood et Taggart, les comparses hollywoodiens d'Axel Foley, le réalisateur a réuni plusieurs finalistes et leur a demandé de faire un jeu d'improvisation pour avoir une idée de leur chimie. Il a mis en binôme les acteurs Judd Reinhold et John Ashton en leur demandant d'improviser comme s'ils étaient un couple d'âge moyen, mariés depuis des années. S'ensuivra une conversation totalement improvisée entre les deux hommes qui donnera naissance à la séquence connue sous le nom du 5 livres de viande rouge dans ses intestins. Mort de rire, Brest les embauchera sur le champ. Avec un budget de plus de 14 millions de dollars, la production débutera finalement le 7 mai 1984 et se poursuivra jusqu'à l'été, se déroulant principalement à Los Angeles et dans ses environs, bien que la séquence d'ouverture ait été filmée sur plusieurs jours dans le Michigan à Détroit. De nombreuses scènes se déroulant à Beverly Hills seront tournées à Pasadena, car la ville de Beverly Hills interdisait tout tournage après 22h30. Le scénario sera finalement terminé le jour même du début de tournage et devra constamment être revisé en fonction des improvisations de Murphy. D'ailleurs, Martin Brest encouragera fréquemment Murphy à improviser, l'acteur ayant une capacité incroyable pour proposer sur place des ad-libs parfaits. D'ailleurs, le discours des super flics, dans lequel Foley a décrit ce qui s'est passé au club de striptease, fut complètement improvisé par l'acteur. Pendant cette scène, John Ashton avait de la difficulté à garder son sérieux alors que le jeune Judge Reinhold devait se pincer la cuisse à travers ses pantalons afin de ne pas rire. Apparemment, de nombreuses improvisations de Murphy furent gâchées à cause de rires devant et derrière la caméra. Pour les scènes de poursuite et le générique d'ouverture, celles-ci seront tournées pendant 5 jours à Détroit au cours de l'été 1984 avec l'équipe de la 2e unité. Il s'agit ici de la scène la plus dispendieuse du long-métrage et de la plus dangereuse. Murphy étant remplacé par un cascadeur alors que son personnage était propulsé sur les parois du camion pendant que celui-ci écrasait différents véhicules sur son passage. La police de Beverly Hills ne donnera pas accès à son quartier général, forçant le réalisateur et son personnel à construire un décor qui ressemblerait exactement à l'opposé du service de police de Détroit. Pour la conception des bureaux de police hollywoodiens, Brest recyclera des conceptions originales de NORAD qu'il avait faites sur la production de War Games, conception qu'il avait produite juste avant d'être remercié de ses services. Pour la séquence de la rencontre entre Serge et Axel dans la galerie d'art, deux hommes étaient censés y travailler, mais lorsque le réalisateur a entendu l'imitation de Serge par l'acteur Bronson Pinchot, celui-ci trouvera l'improvisation tellement amusante qu'il a aussitôt réduit l'autre partie pour donner plus de temps à l'écran à Pinchot. Mais, Afin de respecter son budget, Brez devra accélérer le processus sur le tournage de certaines séquences, dont celle où Mikey est assassiné, n'ayant pas eu le temps de tourner une séquence où Axel tombe au sol après avoir été assommé. Ce sera la même chose pour la séquence des bananes dans le pot d'échappement de la voiture de Rosewood et Taggart. À l'origine, il devait s'agir de pommes de terre dans le pot d'échappement, alors qu'Axel se devait de se faufiler dans la cuisine de l'hôtel pour récupérer la dite pomme de terre. En raison de problèmes de budget et de planning, la scène n'a pu être tournée. Murphy a dû saisir quelque chose qui était facilement accessible dans un endroit déjà éclairé et prêt à être filmé. Ce sera finalement l'idée d'Eddie Murphy de faire venir un de ses amis, l'acteur Damon Wayans, en tant que gars qui travaillait au buffet et qui lui remettra alors les bananes. Ce sera d'ailleurs ici les tout premiers pas de l'acteur Damon Wayans à Hollywood, ce dernier faisant ici sa toute première apparition devant les caméras. Avec un tournage rapide et sans problème, le tournage sera terminé dans les délais prévus, avec un budget qui s'élèvera finalement à environ 13 millions de dollars, soit un de moins que ce qui était prévu au départ. Au total, plus de 26 semaines se passeront entre le feu vert du projet et sa complétion au niveau montage. Ce sera alors le compositeur Harold Faltermeyer qui sera embauché pour la musique du film. Le titre instrumental « Axel F » deviendra un succès mondial et a depuis été repris par de nombreux artistes. Ce bout musical était à l'origine appelé « Banana in the Exhaust Theme » car elle fut composée exclusivement pour la scène où le personnage de Axel mettait des bananes dans le pot d'échappement de la voiture de Taggart et Rosewood. Cependant, le thème sera tellement apprécié par le réalisateur qu'il finira par devenir le thème principal de la comédie policière. La bande originale fera ses débuts sur le Billboard 200 américain la semaine se terminant le 12 janvier 1985 au 177e rang. Il a atteint la première place du palmarès des albums américains Billboard 200 en juin 1985. Celle-ci remportera un Grammy Award pour la meilleure bande originale pour les médias visuels en 1986. Une fois le montage terminé, Beverly Hills Cop a fait une telle impression sur les dirigeants de la Paramount qu'ils se sont engagés à produire une suite quelques instants après la première projection privée du film terminé. La comédie policière sera projetée en salle le 5 décembre 1984 sur plus de 1500 écrans. Plus de 500 salles supplémentaires seront ajoutées avant le 21 décembre 1984. Le film rapportera plus de 3,9 millions de dollars au cours de ses deux premiers jours de sortie et 19 millions de dollars à la fin de son premier week-end de 5 jours. Un peu plus de 9 mois plus tard, les recettes au box-office s'élevaient désormais à 234,7 millions de dollars sur le continent nord-américain et plus de 82 millions de dollars additionnels dans le reste du monde, le faisant terminer à la 7e place du box-office nord-américain de 1984, mais au 2e rang du box-office mondial, juste en arrière d'Indiana Jones and the Temple of Doom. Demeurant numéro 1 pendant plus de 13 semaines consécutives au box-office nord-américain, Beverly Hills Cop deviendra également la vidéocassette la plus vendue à cette époque. Le film de Martin Brest sera nominé aux Oscars de 1985 dans la catégorie « Meilleur scénario » et deviendra avec le temps la 63e meilleure comédie de tous les temps, selon l'organisation du AFI. En 2003, le New York Times mettra Beverly Hills Cop dans sa liste des 1000 meilleurs films jamais réalisés. Pour le personnage d'Axel Foley, celui-ci obtiendra la 78e place pour le personnage le plus iconique de tous les temps du magazine Empire. Du côté des points forts, eh bien, Eddie Murphy est en grande forme ici, ce dernier ayant une excellente chimie avec les acteurs Judge Reinhold et John Ashton. L'humour de l'acteur est contagieux et ne paraît nullement forcé, le comédien afro-américain nous donnant ici des segments d'improvisation hautement amusants tout en s'amusant fortement avec son personnage. Toute la distribution est attachante ici, nous donnant fortement le goût de réécouter Beverly Hills Cop sans arrêt. La séquence d'action au début du long-métrage est tout de même spectaculaire et le réalisateur réussit à maintenir notre intérêt avec une mise en scène réfléchie qui permet au long-métrage de garder un certain rythme malgré certaines longueurs. Un autre intérêt avec Beverly Hills Cop, c'est ce regard loufoque sur le style des gens riches des États-Unis, tellement différent de la société de classe moyenne dont fait partie le personnage de Murphy à Détroit. Finalement, la trame musicale est très enlevante, le compositeur ayant choisi des chansons dynamiques afin de donner un rythme endiablé au long métrage malgré le faible niveau d'action. Mais du côté des points faibles, bien que le récit soit bien mené avec un ton humoristique, le scénario possède une intrigue des plus simplistes, nous donnant très rapidement toutes les réponses à nos questions sans grande surprise. Le but du film n'est pas qui est le coupable, mais plutôt comment notre héros va être capable d'arrêter le vilain malgré toutes les embûches mises sur son chemin. La photographie n'est pas non plus la force de cette comédie, le ratio cinématographique nous donnant l'impression par moments qu'on pourrait regarder un film fait pour la télévision. Du côté de la musique, comme je disais plus tôt, c'est le compositeur allemand Harold Faltermeyer qui s'occupe ici de la trame sonore, lui qui avait travaillé sur les musiques de films Fletch, Top Gun, Cuffs, Cop Out et Thief of Hearts. On peut retrouver la trame sonore du film Beverly Hills Cop sur vinyle, cassette, audio et CD. Trame sonore qui est sortie le 25 octobre 1990 sous l'étiquette MCA. Nous avons également par la suite le score original qui, lui, est sorti sous l'étiquette Enjoy the Ride, que ce soit en vinyle ou en CD. Ça, c'était le 9 novembre 2018. Et on aura également La La Land Record qui sortira sous une édition limitée de 3000 exemplaires. Le score original, donc la musique instrumentale, ça s'est fait le 29 novembre 2016, avant que La La Land sorte une nouvelle édition limitée, celle-ci à 2000 copies, pour la version 35e anniversaire de la trame sonore du film Beverly Hills Cop, un CD qui sortira le 8 novembre 2019.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
I'm Bronson Pinchot. I'd like to speak to you about an issue which seems to be tearing our country apart. The issue, which tastes better, Pepsi or Coke Classic?
For the next few months, everyone all over America can come on down to a taste test booth and taste for themselves which one is really America's choice.
You think there's any doubt who's going to win?
Let your taste decide and discover once and for all why Pepsi is America's choice.
Refreshment. For your enjoyment, there's hot, fresh popcorn, tempting, delicious hot dogs, and so many kinds of ice cream. And of course, sparkling, delicious, ice-cold Coca-Cola for everybody at the refreshment counter now. Remember, your favorite snack will taste especially good with world-famous ice-cold Coca-Cola.
We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
Axel Follet est de retour.
Qui est-ce?
Je crois que c'est un sale poulet.
Elle est Détroit, cette plaque. Qu'est-ce que vous foutez à Beverly Hills?
Ça, je plonge et je descends bien, bien, bien profond dans mon sous-marin.
De retour, là où on ne veut pas de lui.
Où sont les propriétaires de cette villa?
Ils sont à Hawaï pour la semaine, pendant qu'on se casse le cul pour eux.
Je suis Axel Follet, inspecteur au bureau d'urbanisme.
T'as volé cette villa, hein?
Comment on vole une villa? Elle est à mon oncle, cette villa.
De retour parmi ses vieux copains.
Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Et vous, qui êtes-vous?
Je suis Johnny Porte-Bonheur, grand roi de la sorcellerie. Et si on a besoin de moi, eh ben il n'y a qu'à dire Johnny Porte-Bonheur et j'arrive pile tout de suite. Lutz et Biddle. Ou alors grand Biddle et petit Lutz. Mais dans l'autre sens.
On fait une énorme bêtise, hein, une belle connerie.
Mais voyons, relax, c'est tout bon, il faut prendre des risques.
Ce qu'on fait là, c'est franchement illégal.
Dites, ça doit prendre longtemps pour raser ces jambes-là.
J'imagine que c'est un compliment.
Non, en fait, c'est une façon de vous proposer mes services.
Foutez le camp, pompe dégénérée. Yvon, sortez d'ici.
Est-ce que c'est une question de couleur?
Hé, hey, déclenchez l'alarme, ça va péter.
Pas question sans le feu vert.
T'as le feu vert.
Il y a un petit problème ici.
Hugh Hefner, Axel Follet. Celui-là, c'est Max. Et Max, il flingue les flics dans le dos, c'est un tueur. T'as rien trouvé de mieux comme bolide?
Râle donc pas, y'a avec ça au magasin.
T'es sûr que la direction est pas esquintée?
Ça marche encore.
Est-ce que les freins marchent?
C'est pas, j'ai pas encore essayé.
Liquider ce mec, je veux qu'il disparaisse.
Stop! Faites pas, je connais mon job.
Oui, c'est ça qui me flanque la trouille.
Le flic de Beverly Hills numéro 2.
Beverly Hills Cop 2, ou Le flic de Beverly Hills 2, est une comédie policière qui a été distribuée par les studios Paramount Pictures le 20 mai 1987. Ce film américain d'une durée de 103 minutes a coûté 27 millions de dollars et a amassé plus de 299,9 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique Tony Scott, lui qui avait réalisé les films Top Gun, The Hunger, True Romance et Spy Games. Du côté du poste de production, ce sont encore une fois les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer, les producteurs américains ayant produit les films Dangerous Minds, Crimson Tide et Con Air. Au niveau du poste de scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Larry Ferguson, lui qui avait travaillé sur la version de 1986 de Highlander, de Presidio et Alien 3, ainsi que le scénariste américain Warren Skerrin, lui qui avait travaillé sur Fire with Fire, le film de 1989 de Batman et finalement Beetlejuice. Au niveau de la distribution, on y retrouve Eddie Murphy, Judd Reinhold, Jürgen Prochnow, John Ashton, Ronnie Cox, Bridget Nielsen, Alan Garfield, Brian O'Connor, Dean Stockwell, Gil Hill, Gilbert Gottfried, Paul Reiser et Chris Rock. Un détective de Détroit qui s'est déjà illustré à Beverly Hills en prêtant main forte aux autorités locales dans une affaire de trafiquants doit y retourner lorsqu'un de ses amis est victime d'un attentat. Rapidement après le succès du premier film, les dirigeants de la Paramount Pictures désireront produire une série télévisée basée sur le long métrage, mais Murphy refusera alors de participer au projet, ne voulant pas retourner à la télévision, ce dernier ayant débuté sa carrière au Saturday Night Live. Murphy n'était pas contractuellement obligé de faire une suite, mais il était néanmoins impatient de le faire. Ce sera donc lui et son manager Bob Walks qui développeront l'idée de base de ce second opus et qui approcheront alors les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer, les deux hommes s'empressant alors d'embaucher les scénaristes Bud Schrick et Dan Jenkins afin d'écrire un premier jet dans lequel Axel s'infiltre en tant que flic à Beverly Hills afin d'aider Rosewood, Taggart et Bogamil à arrêter un service de sécurité corrompu géré par un voyou de Détroit devenu homme d'affaires. Le scénario permettait deux choses, soit le retour du chef Hubbard et la possibilité au personnage d'Axel d'avoir une partenaire amoureuse d'une vingtaine d'années nommée Lucy. Insatisfait du script et par le fait que l'histoire devait se dérouler et surtout être tournée à Londres et à Paris, Murphy exprimera alors une réticence à filmer en dehors des États-Unis. Le producteur Don Simpson fera alors une demande spéciale aux exécutifs de la Paramount, soit de retirer l'écrivain Larry Ferguson de ses fonctions de scénariste sur le film de Presidio, afin que ce dernier s'occupe de la réécriture de Beverly Hills Cop 2. Puis, le réalisateur du premier opus, Martin Brest, décidera de ne pas revenir dans cette nouvelle production, ce qui forcera alors les deux producteurs à se tourner en direction du metteur en scène Tony Scott, les deux hommes ayant été impressionnés par son travail sur le film à succès Top Gun en 1986. Le salaire d'Eddie Murphy pour reprendre son rôle d'Axel Foley s'élèvera à plus de 8 millions de dollars, soit le double du film précédent. Au niveau de la distribution, tous les comédiens importants du premier volet seront de retour. À l'origine, l'acteur Ronnie Cox devait avoir une plus grande présence dans le film, mais ce dernier était impliqué sur le tournage du film de science-fiction RoboCop et ne pouvait donner le temps nécessaire au tournage de ses scènes, forçant la réécriture de son personnage dans l'histoire. Quant à l'acteur Bronson Pinchot, celui-ci devait reprendre son rôle de Serge dans le film, mais dut se retirer du projet à cause de son travail sur le sitcom Perfect Strangers. Bien que l'acteur Dennis Hopper se soit vu proposer le rôle de Maxwell Dent, ce dernier le refusera, rôle qui sera par la suite attribué à l'acteur Jürgen Prochnow. Bridget Nielsen, Gilbert Gottfried et Chris Rock s'ajouteront alors à la distribution, Rock faisant une apparition en tant que voiturier au Playboy Mansion, son tout premier rôle accrédité sur le grand écran. Le tournage débutera le 10 novembre 1986 et se terminera le 25 mars 1987 après plus de 135 jours de tournage. Plus de 25 sites du sud de la Californie furent utilisés pour la production, y compris l'hippodrome de Hollywood Park, le bâtiment Max Factor ainsi que le Roosevelt Hotel Cinegrill. Beverly Hills Cop 2 sera également tourné au Playboy Mansion et ce pendant plus de deux jours, l'une des toutes premières fois que la célèbre maison autorisait un tournage dans ses locaux. Dans le cadre d'une belle promotion croisée, Bridget Nielsen fut le modèle central du numéro de décembre 1987 de Playboy. Durant ce temps, ce sera l'équipe de la deuxième unité qui ira tourner les plans nécessaires pour l'action se situant à Détroit. Petite anecdote de tournage, juste avant la fusillade finale où on voit Rosewood sortir des armes d'un arsenal dans son coffre de voiture, ce sera ici un clin d'œil à la première rencontre entre l'acteur George Reinhold et le producteur Don Simpson, le producteur montrant alors à l'acteur sa collection d'armes se trouvant dans le coffre arrière de sa voiture. Le tournage de Beverly Hills Cop 2 sera principalement marqué par une histoire folle en coulisses entre le célèbre réalisateur Tony Scott, l'actrice Bridget Nielsen et le comédien Sylvester Stallone. En effet, alors qu'en 1984, Stallone était le premier choix pour le film original, ce dernier était marié à l'actrice Bridget Nielsen au moment du tournage du deuxième opus de la célèbre franchise. Malheureusement pour lui, durant la production, l'actrice danoise de 6 pieds s'engagera dans une liaison illicite avec le metteur en scène Tony Scott. Pour aggraver les choses, le film fait une tonne de références répétées aux personnages emblématiques de Stallone. Lorsque l'acteur découvrira la liaison, il demandera alors le divorce, cet événement étant très médiatisé à l'époque dû à l'implication de l'actrice dans deux des dernières productions de Stallone, soit Rocky IV et Cobra. La production de Beverly Hills Cop 2 coûtera 4 millions de dollars de plus que le budget initialement entendu, principalement dû au tournage des séquences de poursuite qui prirent plus de temps que prévu à tourner. De plus, il arriva à quelques reprises qu'Eddie Murphy était parfois en retard à son heure d'appel, ce qui aura comme impact des prolongements au niveau du tournage de certaines scènes. En plus de son salaire de 8 millions de dollars, plus un pourcentage non divulgué du montant brut, Murphy amassera un 4 millions de dollars supplémentaires qui seront versés à sa maison de production. Suite à la conclusion du tournage, les producteurs se rendront alors compte que le film était plus un film d'action qu'une comédie, le réalisateur Tony Scott n'étant tout simplement pas à l'aise avec les aspects comiques de la production. Le scénario sera alors réécrit une dernière fois suite à la projection test et d'autres blagues seront alors tournées par le réalisateur en compagnie de Murphy. Bien que les films passent généralement entre 4 et 6 mois en post-production avant d'être diffusés, tous ces retards forceront le metteur en scène à achever son travail de post-production et de montage en moins de 6 semaines, travail qui sera complété seulement 2 jours avant la sortie du film en salle. Tony Scott voulait que ce soit le compositeur Hans Zimmer qui s'occupe de la trame sonore du film, mais ce dernier n'était pas encore un compositeur connu et respecté dans le domaine, ayant fait ses débuts hollywoodiens avec le film « Success is the best revenge » en 1984. C'est la raison pour laquelle les exécutifs de la Paramount insisteront pour le retour du compositeur Harold Faltermeyer, ce dernier ayant connu le succès à Hollywood depuis le tout premier volet de la franchise, ayant réalisé la musique des films « Fletch »,« Top Gun » et « Fatal Beauty ». Faltermeyer s'entourera de musiciens incroyables pour son album, allant de André Simone à Giorgio Moroder, en passant par Keith Forsey, George Michael, Howie Rice, Michael Verdick, Narada Michael Walden, James Ingram, les Pointer Sisters, Ready for the World, Bob Seger et Stephen Brill. La chanson Hold On, chantée par Keta Bill, joue dans le film pendant la scène où Axel, Rosewood et Taggart affrontent Dent au Playboy Mansion. Cependant, le CD de la bande originale du film, publié par MCA Records, ne comprend pas la chanson originale, cette dernière étant remplacée par Hold On, chantée par Corey Hart. L'album présentera également la chanson controversée de George Michael, I Want Your Sex, un hit numéro 2 du Billboard Hot 100. La bande originale fera ses débuts à la 8e place du classement des albums Billboard 200 et a passé 26 semaines dans les charts, ce qui sera cependant bien loin comparé aux 49 semaines passées par la bande originale du premier film. Bob Seger et le Silver Bullet Band étaient l'un des groupes rock'n'roll américains les plus populaires de cette époque, mais n'avaient jamais marqué un hit du Billboard Hot 100 single jusqu'à ce que leur chanson Shakedown soit présentée dans le long-métrage. D'ailleurs, la chanson sera nominée aux Oscars ainsi qu'aux Golden Globe Awards, mais sera battue les deux fois par la chanson « I've had the time of my life » du film « Dirty Dancing ». Cependant, la chanson « I want your sex », elle, remportera le Razzie Award de la pire chanson de l'année, bien que cette dernière ait obtenu une certification platine pour les ventes par la Recording Industry Association of America. Beverly Hills Cop 2 sera projeté sur plus de 2326 écrans le 20 mai 1987 et rapportera plus de 4,2 millions de dollars lors de sa journée d'ouverture. Étant l'un des films les plus attendus de 1987, le film deviendra rapidement un succès au box-office, remportant la première place avec des revenus de plus de 33 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture sur le continent nord-américain, faisant de lui le meilleur premier week-end d'ouverture de cette année-là. Au final, la comédie policière amassera plus de 153,6 millions de dollars sur le continent nord-américain, se retrouvant en troisième place du box-office nord-américain, tout juste derrière Three Men and a Baby et Fatal Attraction, et se retrouvera en seconde place au niveau international avec 276,6 millions de dollars dans le monde, le deuxième film le plus lucratif au monde, tout juste derrière Fatal Attraction. Malgré ce succès, un litige surviendra au niveau des crédits d'écriture du film. À l'écran, l'idée de l'histoire est attribuée à Eddie Murphy et Robert D. Walks, et le scénario est attribué à Larry Ferguson et Warren Skerrin. Cependant, Ferguson voulait obtenir le crédit exécutif du scénario et a intenté une action en justice contre la Writers Guild of America devant la Cour supérieure de Los Angeles afin d'annuler sa décision selon laquelle il partageait le crédit. Ferguson a affirmé que Murphy n'avait apporté aucune contribution à l'histoire, que la contribution de Walks était minime et que l'implication de Skerrin se limitait à réécrire environ un tiers du scénario. Ferguson critiquera également le processus d'arbitrage de la WGA qui était enveloppé dans la confidentialité. Il s'agira ici du troisième procès jamais intenté contre la WGA concernant les crédits d'écriture, la première fois étant une affaire de 1955 qui avait été rejetée hors du tribunal, tandis que la seconde concernait la paternité du film de 1987 de Sicilian. En juillet 1987, un juge a autorisé les écrivains Edwin Budd Schrake et Dan Jenkins à se joindre au procès de Ferguson contre la WGA. Lors des audiences en novembre 1987, un juge a décidé que le crédit partagé par Ferguson et Skarron devait rester, mais que la WGA devait tenir une nouvelle audience d'arbitrage concernant les crédits d'écriture pour Schrake et Jenkins. Ferguson a déposé une requête d'appel à la décision, mais celle-ci fut refusée. Lors des procédures, les producteurs Simpson et Bruckheimer déclareront que le scénario fut continuellement réécrit pendant le tournage parce qu'Eddie Murphy improvisait sur le plateau d'une manière constante. Ils ont également déclaré que même si Larry Ferguson avait écrit le scénario original, ce dernier n'avait pas été impliqué dans les réécritures pendant le tournage car il était occupé à écrire The Presidio. L'acteur Frank G. Pisci perdra la vie le 6 février 2022 à l'âge de 75 ans des suites de complications liées à la démence. Gilbert Gottfried, quant à lui, décédera à Manhattan le 12 avril dans un hôpital de New York d'une tachycardie ventriculaire récurrente compliquée par une dystrophie myotonique de type 2 dont il souffrait en privé depuis de nombreuses années. Il avait 67 ans. Le scénariste Warren Skerron décédera, lui, d'un cancer des os le 28 décembre 1990 au jeune âge de 44 ans. Puis, le 19 août 2012, le réalisateur britannique Tony Scott s'enlèvera la vie en sautant du pont Vincent Thomas dans le quartier portuaire de San Pedro à Los Angeles. Une note sera laissée par ce dernier dans sa voiture et dans son bureau pour sa famille. Encore aujourd'hui, la mort du réalisateur, alors âgé à ce moment de 68 ans, demeure inexplicable, Scott ayant mené une longue bataille contre un cancer qu'il venait de battre. Finalement, le 19 janvier 1996, le corps du producteur Don Simpson sera retrouvé dans les toilettes de sa maison de Bel Air à Los Angeles, Simpson décédant d'une insuffisance cardiaque causée par une intoxication médicamenteuse combinée. Au moment de sa mort, il y avait 21 drogues différentes dans son organisme, dont des antidépresseurs, des stimulants, des sédatifs et des tranquillisants. Du côté des points forts, eh bien Beverly Hills Cop bénéficie d'une réalisation beaucoup plus cinématographique que le film original. Le rythme est plus soutenu, le film donnant plus des allures de western que de comédie policière par moment. Eddie Murphy est toujours au sommet de sa forme ici, tout comme sa chimie avec les acteurs George Reinhold et John Ashton. La mise en scène est également supérieure ici, tout comme la direction photo qui nous donne ce dont nous sommes habitués avec ce genre de spectacle dirigé par les frères Scott. De nouveau, la trame sonore ne laisse aucun temps mort au long métrage avec ses chansons choisies avec soin par Falter Meyer. Quant à la distribution, celle-ci est parfaite. Même Bridget Nelson nous donne ici probablement la prestation de sa courte carrière. En général, une des rares suites qui se situe au même niveau, sinon mieux, que son film original. Mais du côté des points faibles, eh bien, le film est ici une véritable grosse production hollywoodienne qui oublie quelque peu la simplicité du premier volet et qui, malheureusement, ne cherche qu'à nous donner plus, plus, plus. Même l'image d'Axel Foley, habillée en complet, représente très bien le malaise de cette production qui aurait peut-être eu à gagner si elle avait eu un meilleur réalisateur moins axé sur le visuel haut de gamme, l'aspect cru et sale du premier volet ayant tout simplement disparu ici. Du côté de la musique, eh bien, c'est encore une fois le compositeur allemand Harold Faltermeyer qui est de retour, lui qui avait travaillé sur les trames sonores des films Fatal Beauty, The Running Man, Fletch Lives et Frankie. Il vous est possible de trouver la trame sonore du film Beverly Hills Cop 2 sous l'étiquette MCA, elle qui a été mise sur le marché en CD, en vinyle et en cassette 4 pistes. Elle est sortie en 1987 et vous avez le score original qui est sorti sous l'étiquette La La Land Records, limité à 3000 exemplaires le 29 août 2016. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Beverly Hills Cop est coté 4 par Mediafilm. J'y vais également avec une cote 4. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film général. Moi, j'y vais avec une cote 14 ans, surtout si vous l'écoutez en anglais, pour un langage quelque peu vulgaire. Du côté de Beverly Hills Cop 2, eh bien, Mediafilm cote le film 4. J'y vais également avec une cote 4. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma y va avec une cote générale. J'y vais également avec une cote pour tous, mais avec un certain avertissement. Parce que, bien sûr, en version originale anglaise, M. Murphy, il va avec un langage quelque peu vulgaire. Au niveau de la sortie du DVD, Blu-ray et du 4K, eh bien, le film Beverly Hills Cop ainsi que le film Beverly Hills Cop 2 est disponible en DVD, en Blu-ray 10 ainsi qu'en version 4K en français et en anglais. Il vous est possible aussi d'avoir des coffrets de collection, ce qu'on appelle les « triple features », qui inclut bien sûr les trois premiers films de la série. Vous avez également le coffret Beverly Hills Cop Collection qui inclut tous les films de la saga, soit Beverly Hills Cop 1, 2 et 3. Bien sûr, le quatrième, étant donné qu'il est sorti sur Netflix, n'est pas sorti sur le marché du DVD au moment où on se parle. Et il existe également en Blu-ray la version Beverly Hills Cop 3 True Movie Collection qui est disponible. Donc, des produits que vous pouvez rajouter à votre collection.
Drive away your worries and cares at this drive-in theater, where you will see the finest motion pictures of all time soon to be released. Drama, comedy, adventure, excitement, something for everyone. Here's a brief glimpse of some of the truly fine pictures we've scheduled in the near future.
Hello, welcome to the Beverly Hills Police Department. To continue this message in English, press 1 pound. If you have homeless people on your lawn, press 2 star.
Oh, wait, buddy, how you doing?
Serge, right? I'm like dazzled by your new look. Look
Thank
at your
you
skin
very much,
and
Thank
your
you.
Hair. And then finally you have black hush poopies, which are totally retro, which I love. You put a really good package together.
Good morning, everybody. It's another beautiful day here in Beverly Hills.
What the hell was that?
Let me guess. Foley.
Did you say Foley?
Foley! We stole a helicopter!
I didn't realize that you couldn't really buy a helicopter. Otherwise, I would have came up with a different idea.
I told you it was a bad idea.
Jane.
Hey, this is your father.
Before you hang up, I'm in town.
I've been arrested. Hello?
You sure y'all paying y'all's bills? Because this phone don't work.
We're gonna need some backup.
Whoa! What are you doing?
I'm getting us some backup. God, I missed you, Axel.
Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.